et que des larmes, des oranges sont tombées dans les yeux en disant, moi il avait les yeux, qu'est-ce que ça fait? Là, c'est un sujet pour les gars. Le deuxième Midrash dit que Ésaü était devenu idolâtre et que la fumée de l'encens des pratiques idolâtres avait atteint les yeux d'Isaac. Il y a une sorte de complaisance de Isaac sur la conduite d'Ésaü qui atteint les yeux de l'Isaac. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'au bout, Isaac va espérer que Ésaü s'est endormi. Mais quel est l'important du problème d'Ésaü et Jacob? C'est encore une fois les deux vocations. Il faut réussir ce monde-ci et réussir le monde à venir. Ensemble, ce n'est pas possible. Alors, on partage la difficulté en deux vocations humaines. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Jacob a opté pour le monde à venir, le résultat de la vie de l'esprit. Ésaü a opté pour ce monde-ci. Et Isaac est très content. Parce que, pour passer au monde à venir, il faut passer par ce monde-ci. Qui va s'en occuper? Alors donc, Ésaü est très important. Il prépare la base du monde à venir. La terreur de Rebecca, c'est qu'elle sait que les enfants ne s'aiment pas, Ésaü ne va pas donner de place dans ce monde-ci à Jacob. Et si Jacob n'a pas de place dans ce monde-ci, il n'arrivera pas dans le monde à venir. Vous avez remarqué que dans le monde chrétien, on n'a jamais eu de place sur terre. Vous avez remarqué? Ça se retrouve dans l'histoire. Mais, alors il fallait l'Arcléa pour découvrir cette problématique. C'est-à-dire qu'il faut se dégager des jugements a priori et pas totalement. Peut-être c'est beaucoup plus important que ça. Si simplement on nous racontait, Dieu a créé un tzaddik, c'est Jacob, Dieu a créé un rachat, c'est Ésaü, c'est une autre vie. Ça va jusque-là? Tiens, tu avais une question, toi?
Je voulais demander le fait que Ésaü ne travaille pas sur le domaine spirituel. Que Jacob dit, en plus de son domaine spirituel, va empiéter sur le domaine matériel.
Empiéter, c'est pas bon, mais je comprends.
Oui, mais il va prendre part, il va agir comme dans le domaine qu'il n'a pas choisi.
Oui.
Il n'est pas cette question.
Et il est très en colère.
Est-ce que ça montre que Ésaü est condamné à une instabilité, c'est-à-dire à ne pas pouvoir sortir de
la position? Dans ton école hier, il y a deux questions qui s'entremêlent. Il y a deux préoccupations.
Oui.
Étant donné que Isaac a échoué, que Ésaü a échoué, Jacob va être investi aussi de la tâche de Dieu. Je vais vous dire, alors on va d'abord s'occuper de ça, puis ça poser la question, à deux niveaux, vous allez avoir une surprise. C'est la raison pour laquelle Jacob a dû épouser Léa et Rachel. Primitivement, Léa était destinée à Ésaü. Quand Léa s'est aperçue qu'Ésaü était Rachel, elle pleurait, et c'est pourquoi le texte dit qu'elle avait les yeux faibles. Vous rappelez ça? Donc, ça veut dire que Jacob a toujours préféré Rachel, c'était sa destinée. Sa destination. C'est une première vision des choses qui est importante. Jacob va être investi aussi de la tâche des aïeux, mais il n'aime pas cette tâche des aïeux, Jacob. Et alors là, vous allez prendre la terre que je vous dis, où on apprend que Jacob a refusé la bénédiction qui était destinée à lui. Vous allez prendre la terre, non, Rayetse.
C'est par la deuxième, parce que sinon, avec Rachel, il va avoir le 7 et la 7 plus bien, alors que normalement, c'est la vie de l'enfant.
Très bien. Tu réserves ta question, ok? Et vous découvrez quelque chose d'important. Ça veut dire que Jacob va fonder une société qui doit s'occuper et de la tâche de Jacob et de la tâche d'Ésaü. Et c'est pourquoi les descendants d'Ésaü disputent l'héritage d'Ésaü que Jacob a fait. Tu vois, je le Alors, vous allez prendre d'abord une question. Dans Réletze, alors, c'est au chapitre 28, verset 2. Chapitre 28, on va y être, c'est pas dans tout le monde. Chapitre 28, changez de parage. Hein? Alors c'est chapitre 20, c'est le verset 20. Car j'ai vu ça avec. C'est le verset 20. Voilà, lorsque Jacob s'enfuit d'Eretz Israël pour aller se réfugier chez Laban, son oncle, Lémet, et il y a la vision de l'échelle de Jacob, quand Jacob se réveille, il fait un vœu. Tu es dit, Vaïda et Akor Neder Emo. Et Jacob a fait un vœu en disant, qu'est-ce que c'est faire un vœu? C'est faire un vœu de privation. Ce n'est pas une nedava. Faire un vœu de donner quelque chose, mais un vœu de se priver de quelque chose s'appelle un nedava. Ok? Il y a l'okim imani. Si Dieu est avec moi, Ushmarani Banerechazé, et qu'il me préserve, qu'il me garde dans ce chemin, cher à l'air, où je vais, il dit, Benatan Ilechemecho, et qu'il me donne du pain pour manger, du bébé et du bosch, et un vêtement pour me vêtir, le Shafti Beshalom et Betabi, je reviens en paix à la maison de mon père, et aïe Hachem Lirelokim, Hachem sera pour moi Dieu. Alors, il n'y a pas ici une espèce de contrat intéressé, protège-moi, je te reconnais, il y a un vœu. Ça veut dire, regardez bien la tête, que Jacob demande juste du pain pour manger, un vêtement pour se bénir. C'est-à-dire qu'il refuse la bénédiction des biens matériels pour sa maison, il en a peur. Il s'agit de Jacob, il n'est pas encore Israël. Israël est capable des deux. Jacob, c'est que l'esprit. Alors, tout ce qui concerne la bénédiction matérielle, il en a peur. Il la refuse. On va voir un deuxième point. Là-dessus, il y a un midrash supplémentaire qui pose la question suivante. Pourquoi cette répétition? Du pain pour manger, un vêtement pour m'habiller. Du pain, c'est pour manger, un vêtement, c'est pour m'habiller. Qu'est-ce que Jacob veut dire? Ce midrash explique en quel contemporain ça veut dire. Il ne me donne pas du pain que je dois vendre pour acheter un vêtement, ou un vêtement que je dois vendre pour acheter du pain. Que le pain soit pour manger et que le vêtement soit pour m'habiller. Ça veut dire qu'il refuse le commerce, même le commerce de vêtements. C'est un peu dans le sens de ta vie. Et effectivement, dès le début du récit, on voit que Jacob est très réservé sur cette bénédiction des aïeux, des biens matériels. C'est Rivka qui l'oblige. Et ce n'est que quand il en sera capable qu'il s'appellera Israël. Après, je vais faire un peu de typologie, mais je vais recommencer un peu à comprendre. D'abord, un autre texte. On est dans la histoire. Au chapitre 33, 32. Au chapitre 32, prenez au verset 6. Lorsque Jacob revient de chez Laban, et que j'encontre Esaü pour essayer de faire la paix, on lui envoie un message. Et voilà, j'étais chez Laban, j'ai tardé là-bas longtemps, mais je reviens, vous y êtes verset 6. Et j'ai eu Chor, Bahamor, des bœufs, des âmes, Sob, des troupeaux, Evel, des chiffres, des serviteurs, des servantes, Vaishlecha, la vie de la venue, et je renvoie ce message pour raconter à mon Seigneur, Esaü, l'Ibsophène Benecha pour trouver grâce à Dieu. Le commentateur va intervenir, mais au lieu de l'exciter comme ça, c'est le contraire, c'est de trouver grâce à tes yeux. Ça va l'exciter, c'est comme s'il lui dit, ben j'ai réussi, la bénédiction que je t'ai pris, je suis riche. Bien, alors Rachid, prenez Rachid. Vous êtes sur Rachid, vous êtes sur Rachid. Alors je dis, ah bah Marli, le père m'a dit, l'Ital HaShamayimu Shmanayare, tu seras béni par la rosée du ciel et le gras de la terre, les bénédictions matérielles. Zo, ce que j'ai eu, enena lomina shamayim velominare, ça me vient ni du ciel ni de la terre, ça me vient de mon travail. Et ça veut dire, tu n'as pas à me jalouser, je n'ai pas utilisé ta bénédiction. Okay? Vous voyez jusqu'où ça va, okay? Je vais prendre un peu plus haut, verset 5 dans Rachid Garci, parce qu'il dit, j'ai séjourné chez Laban, il n'a pas de garti. Alors Rachid explique. Qu'est-ce que ça veut dire garti? J'ai séjourné, c'est la même racine que guerre, étranger. Lisez Rachid. Je n'ai pas été fait ministre et important, prince. Et la guerre, Metek, je suis resté le juge du veto. En chakedai, bisnokoti, tu n'as pas à me haïr. Al Birkot Alicha, à cause des bénédictions de ton père, Chev Rachami, qui m'aurait béni, il m'a béni, et Regevir le Alicha, soit un maître de tes frères, Chev Rachami, puisque ça ne s'est pas réalisé en lui. Oui, il y a encore deux textes, mais ces deux textes, déjà, ça suffit. Jacob, comme Jacob, refuse la bénédiction d'Ésaïe. Elle lui est imposée par Rivka. Et ce n'est que quand il est capable de l'intégrer, d'être aussi noble de la vocation matérielle qui est, et spirituelle, qui s'appelle Israël. Vous êtes ? Vous êtes quoi ? Pour ceux qui entendent l'hébreu, je vous mets un dîme sur ce dernier Rachid que vous citez. Regardez la fin de Rachid. La bracha de Yitzhak à Jacob, celle qui devait aller à Esaü, c'est Gevir et Aïr. Gevir, c'est comme Gibor, ok ? Gevir. Il dit, l'onitaïma bi. Le bi de Gevir, ça ne s'est pas réalisé. Qu'est-ce qui reste ? On avait bi de Gevir. Qu'est-ce qu'il reste ? Guerre, c'est ce qu'il dit. J'ai été fait guerre, le bi, c'est pas réalisé. Bon, je ferme la porte. Vous voyez, Jacob, c'est la vocation de l'esprit et que ça. Alors Jacob ne peut pas, il a peur, ça ne lui convient pas, la bénédiction qu'il devait aller à Ésaü. La bracha matérielle. C'est l'homme de la vocation spirituelle qui n'est pas capable de l'engagement matériel. Il le refuse. Il s'enferme dans ses quatre coudées de sainteté et qu'Ésaü veut lui. Ce n'est que lorsque Jacob est capable aussi de la vocation d'Ésaü qu'il recevra le nom d'Israël. Et je pense que c'est très simple à diagnostiquer dans la vie contemporaine. Pendant 2000 ans, on est resté Jacob que Jacob. Tout ce qui concerne la transformation du monde matériel, Ésaü. Et puis voilà, nous sommes dans un temps où Jacob devient Israël. Mais il y a encore dans la société juive énormément de juifs qui refusent d'être Israël, qui préfèrent rester Jacob. Voilà, pour la peine de mettre ces points sur les i. Est-ce que c'est clair? Il y a cette espèce de réticence de l'homme de la relation spirituelle et que cela de se salir les mains dans la vocation. Alors vous comprenez pourquoi il y a toute une partie du livre de Dieu qui refuse le sionisme. Parce que le sionisme, c'est Jacob devenu Israël. Jacob resté Israël, c'est le ghetto. Réfléchissez bien à ça.
C'est
le ghetto,
non ?
C'est vrai ?
Aussi,
et l'autre côté aussi. Un Ésaü qui ne serait qu'Ésaü, c'est pas Israël. Mais rassurez-vous, Ésaü, on les aime. L'histoire qui se développe. Mais il y a là quatre personnages. Un Jacob qui ne serait que Jacob. C'est l'homme de l'esprit qui n'est que l'homme de l'esprit. Il y a un Ésaü qui ne serait qu'Ésaü. C'est l'homme de la matière qui n'est que l'homme de la matière. Et puis il y a deux tentatives pour unifier ces deux vocations. Celle d'Ésaü est condamnée par la Torah. L'homme de la matière s'occupant de l'esprit rend l'esprit impur. C'est clair ? Vous voyez qu'Ésaü s'est prétendu Israël. Eh bien, c'est condamné par la Torah. Alors que l'homme de l'esprit s'occupant de la matière transfigure la matière. Et c'est ça Israël. Ça, c'est l'intervention de Rivka. Elle dit si jamais la bénédiction matérielle va à Ésaü, les deux sont perdus. Il faut l'imposer, cette bénédiction matérielle, à Jacob. Il n'y a que deux solutions possibles. La voix de Jacob et les mains d'Ésaü. Vous vous rappelez du verset ? La terreur d'Isaac. Hein ? Si c'est Ésaü avec les mains d'Ésaü et la voix de Jacob, c'est l'échec. Et ça existe, ça. Ésaü avec les mains d'Ésaü et la voix de Jacob. Dans l'histoire, ça s'est dévoilé dans Rome. Ésaü avec les mains d'Ésaü et Église la Bible, la voix de Jacob. À col, col et à col. Okay. Si c'est un Jacob avec la voix de Jacob et les mains d'Ésaü, c'est ça Israël. Alors, on est allé un peu vite aujourd'hui à cause de vos questions, je reviendrai sur le texte, mais comprenez bien cela. Nous vivons ce drame, si je veux dire entre guillemets, dans la société juive contemporaine. Vous avez des juifs matérialistes et que ça. Vous avez des juifs spiritualistes et que ça. Et puis vous avez le conflit entre Israël, le judaïsme, et le matérialisme et la solution de type chrétien. Voilà, c'est clair. Et ces quatre personnages-là. Bon, alors évidemment, il faut bien comprendre que c'est toute une histoire de milliers d'années qui s'est développée à travers ce thème divin. Et ce n'est que de notre temps qu'Ésaü, qui s'est cru Israël, reconnaît que c'est Jacob qui est Israël. C'est de notre temps que Rome reconnaît que c'est Jérusalem qui est Jérusalem. Ça leur cause des problèmes.
Quand il a fait.
Quand il m'y reconnaît, ça commence. Vous savez, il y a une espèce de désarroi et de panique dans le milieu chrétien lucide. Ils reconnaissent avec stupéfaction qu'ils se sont trompés pendant 2000 ans. Et une des raisons essentielles pour lesquelles le Vatican ne peut pas reconnaître l'Israël, parce que c'est reconnaître que ce n'est pas Israël qui est Israël, que c'est les Juifs qui sont Israël, je ne sais pas si vous voyez. C'est clair, pendant 2000 ans, ils ont parlé du mystère d'Israël. Moi, ils ont commencé à parler du mystère de l'Église. C'est-à-dire, si c'est les Juifs qui sont Israël, l'Église, c'est quoi? Et c'est le problème qui commence à se poser à eux. C'est pourquoi ils sont paniqués. Si vous suivez tout ce qui se passe dans le monde chrétien, on remarquera à quel point ils ont une attitude extrêmement difficile vis-à-vis de l'Israël.
Parce que ça les anime.
Comment? Parce que ça les anime. Je crois que, à l'échelle. C'est rare. Mais c'est pas facile. Déjà pour les Juifs, c'est pas facile. J'ai compris ta question. Mais c'est pas n'importe qui peut devenir Israël. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue à Malherbe. C'était il y a 7 ans. J'avais dans la promotion un juif alsacien, Schraga, qui était parti en Suisse à une mission. Et cette année-là, il y a un curé qui est venu parler de son expérience. Un curé qui a découvert le pays, la vérité du pays, qui a eu la tentation de quitter l'Église pour devenir juif, puis finalement resté chrétien, mais qui est devenu israélien, il a vu Jérusalem, il est un ami d'Israël, il est utilisé par l'Israël, vous avez vu faire des secrets supplémentaires. Il est venu expliquer pourquoi il ne s'est pas converti au judaïsme, en expliquant ces deux choses apparemment contradictoires. D'une part, il est persuadé de la vérité du judaïsme, mais qu'il ne peut pas être. Alors il a dit, sous forme de blague, j'aime la chouette. Et alors, Schraga, dont vous avez parlé, c'est un peu pas assez, il s'est dit, mais alors quoi, il y a des chouettes cachées. Alors il dit, je me est-ce que tu sais ce que c'est une vraie chouette? C'est clair? Ça veut dire qu'il y a des hommes qui, avec leur raison, voient la vérité, mais ne peuvent pas fonctionner comme ils. Ce qu'on appelle en yiddish, la yiddish kaït. Il y a une manière juive d'être homme, et pas tout le monde n'en est capable. Ça ne veut pas dire que n'importe quel goy ne peut pas être capable de voir la vérité, mais il faut fonctionner en juif.
Ils sont en dernier ensemble ?
Non. La Torah a prévu leur statut. Ça veut dire qu'ils font tchouva sur la haine du judaïsme et deviennent chassidés ou motarol. Quelqu'un qui est né goy, eh bien, il n'est pas obligé d'être juif. Ce qu'on lui demande, c'est d'être tzaddik, moral, et pas idolâtre. Et alors, c'est la question qui s'est posée à vous, moi, qui se pose à propos de cette histoire. Un chrétien voyant la vérité devrait devenir juif. C'est pas si simple que ça. Il faut aussi. Il y a des hormones, je ne sais pas comment dire ça. Vous voyez, pour un curé, agiter un loup là-bas avec joie le jour de secours. C'est quoi juif, quoi.
Je voudrais revenir sur Rivka. On dit que Rivka c'est une syndicate. Et si la tchouva est sérieuse, comment se fait-il qu'elle peut avoir un fils qui soit pur machin?
Alors, il faut étudier les lois d'hérédité. Ça la traverse, mais ça passe à travers. Elle a refoulé le caractère araméen de son identité, mais il est là, refoulé, il est là. Dans le vocabulaire de la génétique, c'est les caractères dominants, les caractères récessifs. N'importe quel juif, le plus grand de sa vie, il a un araméen refoulé dans l'inconscient. Pour elle, oui. Mais qu'est-ce qui passe à travers? Et on a l'histoire des Havot, on n'est pas dans l'histoire des Banim. L'histoire des Banim, c'est plus irréversible. Dans l'histoire des Havot, et il est évident qu'une identité est en train de se constituer. Et alors, Rivka est un véhicule pur de quelque chose qui traverse sa propre hérédité et qui peut être impur. La Torah nous a dévoilé ça pour nous dire pourquoi Dieu a refusé que l'enfant naisse. Et alors, c'est le courage de la prière d'Isaac qui naît quand même, on s'arrange là. Alors Dieu a divisé cet œuf en deux. Mais vous voyez que Ésaü est de la matrice d'où est sorti Jacob. Alors Ésaü est à plaindre parce qu'il a une tâche très difficile. Être tzaddik, bien que sa vocation soit la vocation d'un petit. Mais ne croyez pas que être tzaddik, quand la vocation est la vocation d'esprit, c'est facile. Ah bon, bon, avec le prochain cours de Kantou de Narabo. C'est sur le verset Shoah Nafik Hasidan.
Vas-y, on va voir juste les loups qui veulent la gauche. Et pas Israël. Parce que.
J'ai dit le juif de ghetto. Et je voulais aller avant ta question, je voudrais l'expliquer en bonne part. Mais ces juifs, ils sont protégés par leur piété et qui ne veulent pas voir le monde de la réalité. Ça leur fait peur. Ça, c'est la vocation de Jacob. Il est le Jehovah. Alors, quand Jacob est capable de faire à manger, comme Esaü, il s'appelle Israël. Bien. Mais lui, il fait à manger caché.
Est-ce que ça vous prend un peu de peur, cette piété
Non. Ça, c'est l'histoire de Lot. Qu'est-ce qu'il voulait faire à Sodome? Sauver les gens de Sodome ou il aimait
D'accord, mais
la question
sur est-ce qu'il
faut
faire un petit peu
de société. Le problème est posé de façon trop abstraite. C'est une question de capacité de vocation. Il y a des spécialistes de ça, c'est pas n'importe qui. De rester dans sa piété comme il faut et de s'occuper de la chair. C'est pas n'importe qui. J'ai un risque de venir. Laissez faire les spécialistes.
D'accord, mais j'ai compris.
Au niveau de la croix, du peuple juif d'Israël. Mais oui, mais j'ai bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que le christianisme a voulu faire. Diluer le judaïsme à l'eau du loup pour pouvoir s'occuper des païens. C'est ce que le christianisme a fait. C'est un échec monumental.
C'est un échec.
Ils ont sauvé des âmes. Hein, c'est sûr. Mais la civilisation est arrivée à Auschwitz avec ça. C'est un échec. Et c'est pas fini. Et si j'ai bien compris ta question, c'est l'intention des apôtres quand ils ont pris le christianisme. Le judaïsme, c'est trop pur pour un païen. Alors on a dilué ça. Et peut-être que ça va les cacher les autres. Mais ça ne les a pas cachés les autres. Barbarisme, c'est. Est-ce que c'est clair?
Est-ce que c'est au niveau local, au
bien sûr. Alors, et tu vois, l'enjeu en valait la peine pour sauver X âmes, avoir perdu un monde.
Ah, mais je parle pas au niveau d'initiative institutionnalisée.
Oui, c'est pourquoi je dis il faut demander chacun son. Par exemple, je vais donner un exemple fictif. Ça se base sur des exemples concrets. L'État d'Israël a souvent besoin de gens qu'on envoie dans des pays très dangereux pour des missions israéliennes. Et en général, les gens compétents sont des datines. Alors c'est le Bédil qui décide s'il en a été ou pas, parce que dans ces missions-là, on risque de ne pas pouvoir toujours pratiquer Shabbat comme il faut. Mais il faut un Héter au Bédil. Tu vois, c'est l'avancée de l'Église. Et le Bédil refuse ou accepte, ça dépend de qui. On peut donner une règle générale et des missions périlleuses. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont ce raisonnement-là. J'abandonne un peu ma piété, mais je vais sauver les autres. On va voir ce qu'il y a derrière. Okay. C'est vraiment, qu'est-ce que tu veux, c'est sur les autres, ou on veut dire, tu cherches un alibi. D'accord ? J'ai compris, bon. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Le fait de la sincérité, ça peut être. Là, c'est comme ça que ça doit être. Quand on veut que ça puisse être pour faire du temps, c'est l'exemple du Shabbat.
Par exemple, je donne un exemple, je vais vous couper des étudiants. J'avais un étudiant qui avait un examen de Shabbat. Alors il me dit, eh ben, je vais faire quand même un examen, il vaut mieux que je meure la Shabbat, mais après je réussis mon examen et ça pourra me faire pratiquer le Shabbat à beaucoup de gens. Je dis, écoute, après, ça c'est un peu l'interrogation. Maintenant, je vais. Et il faut avoir un peu de psychologie pour savoir que très souvent, des options apparemment d'un idéalisme absolu, c'est des alibis. C'est ce que qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, c'est pas simple. C'est quelqu'un qui est capable, sans rien abandonner de sa Torah, de s'occuper des. Celui-là, c'est rare.
C'est bizarre que ça vienne de chez Rachel.
C'est
rare? C'est bizarre que ça vienne de chez Rachel, qui était destiné à la porte, qui était destiné à la porte. On aurait mieux compris que ça
venait de chez. Très bien. Mais ça, on va voir plus tard. Vous voyez, l'entrecroisement des vocations. Si un homme de Rachel est capable de la tâche de descendre. Et les descendants sont capables de la tâche de descendre de Rachel, tu gagnes. Vous avez compris? C'est une logique. Pareil pour Léa, c'est Rachel, c'est la matrice d'Israël de l'exil. Alors que Léa, c'est la matrice d'Israël de
l'exil.
De l'exil, c'est Rachel. Du point de vue de la typologie, les Juifs de l'exil, qui restent en exil, qui n'arrivent pas à voir que c'est le temps d'Israël, on les rattache à la descendance de Rachel. Et les Juifs d'Est Israël, on les rattache à la descendance de Rachel. Et je vais dire une blague, c'était pas tellement une blague, et puis on va s'arrêter parce que c'est l'heure. Vous savez, Rachel, il faut dire la Bethléem, sur le chemin de l'exil. Et il y a une vache qui dit qu'elle vient courir sur le chemin de l'exil pour prier pour sa descendance en exil. C'est à ce moment-là que tout le monde fait avec. Et alors, il y a beaucoup de juifs de l'exil qui demandent à ce qu'on rende Bethléem aux Arabes pour avoir leur protection à l'exil. Parce que maintenant, c'est un héritage.
Le chemin,
c'est un héritage. C'est un héritage. C'est un héritage. Et c'est pas une âme qui tient. Bon, alors on se verra la semaine prochaine. Vous lisez le temps.